Mimi. On va louper le début.
Passe devant, j'écouterai. En podcast.
Ah ça y est, c'est le retour. Retour au bureau, à l'école, à la routine. Mais vous sentez, il y a comme un petit frisson dans l'air, ce frisson du lundi de janvier où les résolutions flottent encore dans l'air, un peu comme ces guirlandes qu'on a oublié d'enlever. Elles traînent, elles clignotent encore, malgré nous, comme pour nous rappeler que les fêtes sont finies, mais qu'il reste peut-être encore une envie en nous de recommencer, de voir les choses autrement. Une journée pleine d'envie est une journée importante, et donc pour une journée importante, on va parler de choses importantes. Alors de quoi donc, vous me direz ? Eh bien, on va parler de ce qui nous constitue, nous habille, nous expose notre corps. Deux bras, une tête, deux jambes, ça paraît simple, évident, et pourtant, si on s'arrête un instant, si on regarde de plus près, on réalise que nos corps sont bien plus qu'un assemblage de chair, c'est plus fragile, plus complexe, plus politique même. Parce que nos corps racontent, ils parlent de nous, de notre époque, de nos choix, parfois même à notre insu. Alors pour explorer tout ça, pour mieux comprendre tout ce qui se joue derrière, eh bien, il y a notre invité, puisque oui, bien sûr, je ne suis pas seule, je suis avec Swazik Manak-Chauvel, aujourd'hui que vous connaissez bien, bonjour. Bonjour Swazik, merci d'être avec moi aujourd'hui.
Bonjour Margot et puis surtout meilleurs vœux à toutes et à tous.
Meilleurs vœux, c'est vrai, pour cette nouvelle année. Vous êtes professeur en sciences économiques et sociales, mais aujourd'hui vous venez surtout en tant que conférencière puisque vous animez un cycle de conférences pour l'Université populaire de Laval, un cycle intitulé « Le corps dans tous ses états ». Une première conférence a déjà eu lieu. Le second rendez-vous, c'est demain, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Et justement, on parlera ensemble de ce corps et des différentes questions que vous posez autour de lui dans ces conférences. On y revient dans quelques instants. Alors, je vous ai présenté Swazik, même si nos auditeurs vous connaissent déjà très très bien, mais laissez-moi aussi vous présenter une nouvelle voix que vous retrouverez à mes côtés presque chaque jour dans cette émission, puisque pendant les fêtes, une très bonne nouvelle est tombée. C'est l'arrivée de Maxime qui rejoint l'autre radio à mes côtés pour quelques mois. Bonjour et bienvenue à toi, Maxime.
Merci, bonjour à tous et à toutes.
On te retrouve donc juste après l'entretien pour la revue de presse du Haut-Anjou. Donc, vous voyez, cette semaine commence très bien, cette année commence très bien. D'ailleurs, elle commence avec le premier épisode d'une série de portraits d'illustratrices et d'illustrateurs dont vous avez sans doute déjà aperçu le travail sans penser forcément à celui ou celle qui se trouve derrière. Aujourd'hui, on rencontre Armand Demezy, les Mayennais, il se lance tout juste. Vous avez d'ailleurs sans doute aperçu une de ses illustrations puisqu'il a créé le visuel du dernier bouger en Mayenne de l'année 2024. Il sort également un livre jeunesse ce 23 janvier et donc dans ce premier épisode, on découvre les débuts d'un illustrateur, les différentes techniques d'Armand et puis ses futurs projets. L'émission se terminera ici. Aujourd'hui, pas de journal des sports. On retrouvera notre chroniqueur Mathieu dans deux semaines. C'est notre expert de l'actu sportive locale. Voilà le sommaire complet de cette émission. C'est l'agité du local qui commence. Je suis Margot. On commence ce moment ensemble. Et comme je vous le disais, je ne suis jamais seule face à ce micro puisque je vous le disais aujourd'hui, je suis accompagnée de Swazik Manak-Chauvel. On vous connaît bien en tant que chroniqueuse dans cette émission, mais vous êtes aussi professeure de sciences économiques et sociales en Mayenne depuis plus de 20 ans, après avoir travaillé en tant que consultante en ressources humaines et chargée de formation. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est du cycle de formation que vous proposez à l'Université populaire de Laval. Ce cycle de formation est intitulé « Le corps dans tous ses états ». Alors déjà, peut-être pourquoi est-ce que vous avez choisi ce thème-là et qu'est-ce que ça révèle de notre époque, Swazik ?
Alors, j'ai choisi ce thème-là déjà parce que je dois dire, et c'est important, hein, que je choisis exactement les thèmes que je souhaite aborder à l'Université populaire. Hein, c'est vraiment moi qui décide, il n'y a aucune censure, aucune consigne même. Et j'ai souhaité aborder ce thème parce que bien souvent, on imagine que le corps est naturel, alors qu'en fin de compte, c'est un objet sociologique extrêmement important. Hein, de nombreux sociologues ont écrit dessus. Je pense à Christine Détré, je pense à Le Breton, je pense à Madieu. Et on voit qu'en fin de compte, ce corps nous... Enfin, il y a un destin qui pèse sur ce corps et c'est très choquant dans notre société puisque nous sommes dans une société démocratique où il doit y avoir l'égalité entre tous, etc. Et évidemment, ça devient tabou que de dire comment ça, notre corps nous prédispose à un certain destin. Eh bien, les études sociologiques nous disent que oui, selon le corps que l'on a, que ce soit professionnellement ou que ce soit relationnellement ou en amour, eh bien, selon notre corps, notre destin n'est pas forcément le même. Tout à fait.
Et alors, finalement, j'ai envie de vous poser la question, pourquoi le corps est-il autant un objet sujet de fascination et de contrôle. On parle aussi de contrôle, du coup, dans notre société.
Bien sûr que le contrôle des corps est extrêmement important, parce que le corps physique, c'est une métaphore du corps social. Et que de maîtriser le corps physique, c'est maîtriser le corps social. Et alors Bourdieu l'a montré aussi, si je prends par exemple ce que Bourdieu appelle l'exis, c'est-à-dire la façon de se tenir. Eh bien, il est bien clair que pour l'élite, il est important d'avoir ce qu'il nomme des corps redressés, des corps très droits, des corps qui en imposent et qui, en même temps, reprennent des signes de distinction sociale qui ne sont pas forcément accessibles à tous, que ce soit la droiture, que ce soit la minceur, que ce soit l'élégance, pour se distinguer effectivement et se reconnaître aussi entre pairs.
Et donc, il y a eu déjà une toute première conférence qui a eu lieu donc en décembre. Le thème était de Mona Lisa à Aya Nakamura. Que nous dit la beauté de notre corps en société? Vous avez donc exploré dans cette première conférence le lien entre beauté et contrôle social. Pourquoi la beauté a-t-elle été si souvent associée aux femmes dans l'histoire, Soizic?
Alors, non seulement elle a été si souvent, mais elle l'est toujours. Je commence ma conférence par la définition de la beauté du Larousse 2024. Et dans le Larousse 2024, l'exemple qui est donné, c'est une beauté féminine. Et on ne parle pas de beauté masculine. Alors pourquoi la beauté des femmes? Mais parce que bien évidemment, d'être belle, ça signifie des contraintes corporelles. Et donc maîtriser et imposer des contraintes corporelles, eh bien une fois de plus, vous imposez une norme sociale et vous imposez aux femmes d'être belles. Et aussi souvent de se taire. D'ailleurs, le proverbe le dit lui-même, sois belle et tais-toi. Mmh. Mais la beauté, c'est une façon, bien évidemment, de dominer les femmes. Bien sûr.
En fait, c'est toute une série de conférences. Il y en a 5 en tout, 5 conférences. La première a déjà eu lieu. La seconde, c'est demain, donc le mardi 7 janvier. J'ai envie qu'on revienne directement un peu sur la thématique que vous allez aborder demain. L'intitulé de la conférence, c'est « Le poids de nos apparences quand notre corps parle de nous ». Ça met en lumière finalement les inégalités liées au physique dont vous parliez tout à l'heure, notamment dans l'emploi et la séduction. Alors, quels sont peut-être les mécanismes sociaux qui entretiennent ces discriminations-là?
Oui. Alors déjà, le poids des apparences, hein, c'est un titre que j'ai pris à Jean-François Amadieu, hein, donc voilà, c'est important. Et puis, c'est-à-dire qu'on se rend compte que selon le physique que l'on a, eh bien, par exemple, en termes de recrutement, heureux les beaux, ils seront recrutés, j'ai envie de dire. Mmh. Parce que, évidemment, qu'on va davantage avoir confiance en quelqu'un de beau, quand quelqu'un soit de bougon, soit de laid, soit de difforme, et d'handicapé aussi, d'ailleurs. Mmh. Parce qu'on a tout notre imaginaire, on a toute notre construction mentale qui fait que quelqu'un de beau, eh bien, on va se dire qu'il est certainement honnête, qu'il est certainement ouvert, qu'il est certainement intelligent. Alors que quelqu'un qui est plus laid, eh bien, on va lui accorder malheureusement la laideur de l'esprit en corrélation avec sa laideur ou, disons, sa moindre beauté physique. Et ça, on le remarque, par exemple, chez les acteurs. Vous voyez bien que quand on voit des acteurs, on s'esbobille devant le fait « Oh, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'elle est belle !» Voilà. Quand ils ne le sont pas, parce qu'ils ne le sont pas tous, bon, voilà, on ne dit rien. Mais néanmoins, on est vraiment charmé par les beaux acteurs, par les belles personnes. Et on remarque que parfois, alors ça, c'est dans le Marianne de Marivaux, qu'une femme qui est très belle va avoir le droit à la parole. Et imaginons que cette femme, tout d'un coup, lui arrive un accident et qu'elle soit défigurée. Si elle revient à la même chair, si elle dit la même chose, eh bien, on va beaucoup moins l'écouter. Parce qu'en fin de compte, on n'écoute pas tant les femmes qu'on les regarde.
Ça, c'est vrai. Et ce processus se passe de manière, ce rapport qu'on a justement à l'apparence de l'autre dans la société, ces discriminations qui s'opèrent finalement très couramment, c'est de manière consciente et inconsciente.
Ah, complètement inconscient. Mais c'est ça. Pierre Bourdieu disait que la sociologie, c'était la science du dévoilement. C'est-à-dire que c'était de mettre à jour des mécanismes que l'on a parfaitement incorporés et qui nous semblent, et là je mettrai des guillemets énormes, naturel. Or non, nous sommes certes, nous naissons pour la plupart, et heureusement avec deux yeux, deux jambes, mais après ce que nous faisons de cet assemblage de ce corps, mais on n'est pas une page blanche, et c'est complètement dicté par notre destin social, enfin entièrement, beaucoup dicté par notre destin social. Pour les plus âgés, je dirais, regardez, et pour les plus jeunes aussi, c'est toujours aussi drôle, regardez, la vie est un long fleuve tranquille. Ça a été caricaturé par Étienne Chatiliez, mais si on ne nous dit pas qui est la famille prolétaire, qui est la famille bourgeoise, rien que de les voir en photo, on le saura immédiatement.
Et alors, ce que vous expliquez, c'est que finalement, les réseaux sociaux aujourd'hui, le cinéma, les médias, tout ça modèle nos imaginaires, justement, nous influence énormément.
Ouais. Alors, évidemment, quand le cinéma est apparu, bien sûr que les femmes ont voulu s'identifier aux actrices, parce qu'il faut bien voir que jusqu'au 19e siècle, il n'y avait pas de photos, il n'y avait même pas de miroir, donc on ne pouvait pas voir à quoi on ressemblait. Donc le cinéma a vraiment révolutionné tout cela. Mais, bon, à petite dose. Les médias, également de plus en plus, dans les présentateurs ou animateurs de la télévision, par exemple, il y a pas beaucoup de personnes laides. Regardez sur Internet, vous verrez, il y a toujours des visages agréables. Et puis après, alors là, arrivent les réseaux sociaux, et là, on passe d'un niveau artisanal d'influence de la beauté à quelque chose d'industriel et à des injonctions qui peuvent être délétères. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, ces jeunes femmes qui sont énormément, et une fois de plus, je parle de jeunes femmes, vous remarquez, qui sont énormément sur les réseaux sociaux, veulent absolument ressembler à celles qui se montrent. Et donc, du coup, quand elles se retrouvent face à leur miroir, il y a un décalage, d'où une importante taux de dépression. Et puis, évidemment, un recours hallucinant pour les femmes de moins de 25 ans. Je dis bien de moins de 25 ans, la chirurgie esthétique.
Ce que je trouve intéressant dans l'ensemble finalement des thématiques que vous abordez, c'est la question du libre arbitre qui revient finalement très régulièrement. On parle effectivement de femmes beaucoup plus impactées par ces dictates-là. Le libre arbitre, on a peut-être plus de mal en tant que femme à se détacher de ça. On nous rabâche peut-être en permanence dans la société.
Alors c'est aussi pour ça que ce thème m'intéresse, parce que comme nous sommes dans une société, je rappelle, démocratique et une société néolibérale où l'individualisme est mis en exergue, on est entrepreneur de notre vie et on a ce que l'on mérite, eh bien j'ai voulu faire un pas, et il y a beaucoup de sociologues qui sont d'accord avec ça, moi j'ai voulu faire un pas arrière et me dire mais finalement est-ce que nos vies ne sont pas aussi prédestinées par un milieu social? Est-ce que ce n'est pas le milieu social le plus prédictif de ce que l'on va devenir? Et là on se rend compte, mais j'ai oublié votre question Margot, rappelez-moi.
La question du libre arbitre, justement, oui, voilà. Les hommes et les femmes, il n'y a pas même rapport.
C'est ça, et donc on est dans notre société évidemment enclin à se dire que nous faisons ce que nous voulons, comme nous l'aimons, c'est parce que nous choisissons, etc. Or, on se rend compte finalement que le libre arbitre, il est extrêmement conditionné par des modèles, et bien plus évidemment pour les femmes que pour les hommes. Alors, des modèles d'hommes, il y en a, il y a les footballeurs, il y a l'élite, etc. Mais si vous prenez les réseaux sociaux, le fameux lifestyle, ce sont des influenceuses à 90%, et il y a beaucoup moins d'injonctions pour les hommes. C'est-à-dire que plus on est dans une société qui se démocratise, plus on est dans une société qui est avancée, on se rend compte que plus les injonctions genrées reviennent. Et ça, c'est un véritable problème. C'est vraiment un véritable problème. Je vais vous citer un exemple. Quand on a voulu imposer l'uniforme à l'école, le lycée dans lequel je travaillais s'était proposé pour être volontaire parce que c'était une expérience. Tous les générales dans le lycée, et notamment tous les générales chez les élèves, au nom de leur singularité, de leur personnalité, de leur libre arbitre, comme vous dites. Bon, très bien. Et alors, moi, j'étais ni pour ni contre, mais ça m'amuse sociologiquement de regarder ce qui se passe. Et donc, je dis, non pas aux garçons, je n'aurais pas pu le dire, mais je dis aux filles, les filles, maintenant, vous allez lever la main, celles qui ne sont pas coiffées avec des cheveux longs, l'arrêt au milieu, raide. Aucune fille n'a levé la main. Aucune jeune fille n'a levé la main. Parce qu'évidemment, c'est tellement quelque chose qui... Des injonctions, des assignations dont elles ne se rendent pas compte. Elles ne se rendent pas compte qu'elles sont effectivement dans un moule extrêmement serré. Extrêmement serré. Alors que chez les garçons, on a effectivement plus de liberté. Alors bien sûr, ils vont être aussi, eux, en pantalon. Et la plupart ont les cheveux courts. Mais s'ils ont les cheveux longs, ce n'est pas bien grave. Alors qu'une Miss France, l'année dernière, qui a eu les cheveux courts, rappelons-nous, Margot, rappelons-nous, ça a ému la France entière. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc c'est pour ça que voilà, c'est pour démonter tout ce qui nous semble naturel, qui en fin de compte, non, sont des injonctions. Et des injonctions, moi, qui me font un peu frémir parce que les jeunes sont plus... Enfin, surtout les jeunes filles, sont vraiment devenues un peu les proies des influenceuses et des réseaux sociaux. Et c'est quand même délétère. Je le dis parce que toutes les études le montrent, hein. C'est pas du tout une opinion, toutes les études le montrent.
Oui, on parle d'avancer, mais effectivement être toujours vigilant et attentif aux nouveaux médias, aux nouveaux modes d'influence. Si on regarde un peu dans le futur, le mardi 4 mars, il y aura donc votre troisième conférence intitulée La fabrication des corps entre contraintes et liberté. Justement, là on parle de construction culturelle des corps, ce qu'on a un peu évoqué ensemble jusque-là. Vous évoquez des normes comme l'épilation ou la différenciation des corps masculins et féminins. Alors, est-ce que c'est ces normes sont malgré tout en train de s'effriter avec des mouvements comme le body positivisme ou même les revendications par exemple de personnes transgenres. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ouais. Alors les revendications de personnes transgenres, pour premier thème, c'est assez curieux. On remarque que quand ces personnes transgenres par exemple deviennent mannequins, parce qu'aujourd'hui on en a de plus en plus, ce qui fait donc la différence pour les marques, donc elles se gargarisent d'avoir fait un pas de côté, d'être progressiste et avant-gardiste. Sauf que vous regardez les mannequins transgenres, ils adoptent les mêmes codes que les mannequins pas transgenres. Grand, mince, un petit peu unisexe, maquillé, ce sont les mêmes codes. Donc c'est dommage que ces personnes qui sont transgenres n'en profitent pas pour mettre un petit peu le coup de pied dans la fourmilière. Et puis, quant au body positivisme ou à l'épilation, alors là, je dirais, Margot, on va voir, on va attendre. Est-ce que ce sont aujourd'hui des jeunes, parce que c'est surtout les jeunes hein, qui sont concernés, qui se sont emparés de cela, et puis bah, qui, quand ils auront 40 ans, vont arrêter, auquel cas, ce sera un effet d'âge. On est rebelle quand on est jeune, et puis bah, après, on se met dans la lignée. Ou est-ce que ces jeunes vont emporter avec eux et elles jusqu'à la retraite ces nouvelles modalités, auquel cas, on sera dans un effet de génération, et là, il y aura peut-être des choses qui vont changer. Vous savez, on dit que pour bousculer une société, il suffit de 3% de la population. Donc, c'est possible. Mais là, il faut attendre. Mmh. Ceci dit, les mécanismes de réassignation sont très, très, très forts.
Mmh. La quatrième conférence aura lieu donc le 11 mars. Le corps, un capital à faire fructifier. Et alors, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, justement, cet angle que vous prenez. Est-ce que vous pensez que nous sommes justement des entrepreneurs de nous-mêmes? Vous l'avez un peu dit tout à l'heure, où notre corps est finalement constamment mis en compétition sur le marché du travail, ou même celui de la séduction. Finalement, il y a une compétition permanente, en plus de cette pression qu'on se met à nous-mêmes.
Bien sûr. Alors, vous appelez ça compétition. Le néolibéralisme parle de concurrence. Et que parce qu'il y a de la concurrence, eh bien, on va dégager la meilleure qualité à moindre coût. Voilà, donc les corps sont soumis dans ce système à la logique. Et pour ça, je ne dirais pas capitaliste, mais je dirais néolibéral, bien évidemment. Mmh. Et puis, ce capital à faire fructifier, c'est... Alors, j'en ai parlé pour le travail. Là, j'en parlerai davantage dans cette conférence pour la séduction. Bien sûr que c'est... Si on a un corps avantageux, eh bien, on a plus de chances de séduire. Quand, rappelez-vous, nous, il faut être honnête aussi, hein, quand on fait des choses comme ça, quand on parle d'un garçon qui a des plaquettes de chocolat, on est en pamoison quasiment. Et d'ailleurs, les salles de sport ne s'y trompent pas. Elles fleurissent à tout va. Et le nombre d'inscriptions pour sculpter le corps de ces messieurs ou de ces dames, mais là, pour le coup, c'est plutôt les messieurs qui ont des injonctions, eh bien, décollent littéralement. Donc, bien sûr que c'est un capital que l'on fait fructifier du côté de la demande de nous, mais le système néolibéral, et là, pour le coup, capitaliste, ne s'y est pas trompé, c'est-à-dire que s'est développé tout un marché des biens et des services autour du corps. Alors, je parlais du sport, mais alors après, vous avez évidemment les JO, etc. Et puis, vous avez, je le disais aussi tout à l'heure, toute cette médecine et paramédecine qui s'est complètement enrichie. Et aujourd'hui, quand vous demandez, les statistiques le montrent, hein, quelle est la spécialité que choisissent en premier les étudiants en médecine, c'est la chirurgie esthétique. Parce que ça rapporte. Il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas parce que ça fait plaisir aux nanas. Hein. C'est parce que ça rapporte. Donc, une fois de plus, le capitalisme a réussi à marchandiser des envies, des fantasmes, des façons d'être. Comme il a toujours réussi à le faire.
Et ce qui est intéressant, effectivement, vous le disiez aujourd'hui, des jeunes filles de moins de 25 ans. Ouais, avant, la chirurgie esthétique, je pense qu'on la projetait plus contre le vieillissement.
C'est ça.
Puisque le vieillissement était aussi fortement
toujours
invisibilisé, questionné.
Toujours.
Aujourd'hui, même
dégradé. Hein. Quand on vous traite de vieux, vous en prenez, c'est quasiment une insulte. Alors qu'un état, enfin la vieillesse est un état, c'est pas une qualité. Et la jeunesse, idem, c'est un état, ça n'est pas une qualité. On sait très bien qu'il y a des jeunes cons. Non mais c'est vrai.
Alors la dernière conférence, qui sera donc la cinquième, aura lieu le mardi 1er avril. Habiller les corps, la mode sous toutes ses coutures. Est-ce qu'on peut imaginer justement une mode qui ne soit pas forcément imposée et même respectueuse de la planète? Puisque là, dans cette conférence, il est aussi question finalement du désastre écologique que ça entraîne.
Ouais. Alors sur l'habillage des corps, effectivement, je reprendrai Bourdieu, hein, pour qui la jupe était le nouveau corset des femmes, parce que vous voyez bien, regardez les photos de mannequins, regardez les photos simplement du festival de Cannes. Regardez comment sont habillées les femmes, regardez comment sont habillés les hommes. Les hommes, ils sont habillés pareil depuis 150 ans. Les femmes, ça évolue par plus de mise en valeur des parties nues du corps, donc une sexualisation plus importante des corps, des jupes fendues, décolletées, des talons à aiguilles de 10 cm de haut, c'est-à-dire que vous voyez bien qu'elles sont empêchées. Elles sont empêchées dans beaucoup de mouvements. Si le feu prenait dans le au festival de Cannes, les hommes pourraient partir en courant très vite, hein, chaussures basses et pantalons. Les femmes, ce serait beaucoup plus compliqué. Il faudrait qu'elles se débarrassent de leurs atours. Donc, vous voyez, là encore, c'est sur la femme que repose la beauté, la sexualisation et surtout le fait qu'elle soit empêchée, une fois de plus. Et quant à la partie écologique, bah oui, parce qu'il faut aussi savoir que les vêtements, hein, c'est la troisième source de pollution sur la planète. C'est une catastrophe, que ce soit en termes de fabrication du vêtement ou en termes de retraitement du vêtement, en termes de déchets. C'est catastrophique. Mais sauf qu'on nous le vend en permanence, qu'il faut être beau, qu'il faut être bon, etc. Donc je voulais faire un point là-dessus. Je l'avais fait l'année dernière dans un lycée à Laval et les élèves étaient effectivement complètement scotchés parce que ne s'attendait pas à cela. Et puis là, c'est pareil, il faut démonter des idées reçues. Je pense à Vinted. Hein. Oh, j'achète sur Vinted, c'est une deuxième main. Non, les affaires de Vinted ont un jour été produites. Et surtout, les études montrent que les personnes qui sont extrêmement dynamiques sur Vinted sont des personnes qui également achètent le plus neuf.
Mmh, oui, donc c'est intéressant. Ces chiffres-là sont toujours intéressants et parlants sur un fonctionnement qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc finalement, la mode ne peut pas être un outil d'émancipation. Ça reste encore un instrument de contrôle social.
Ah, complètement, complètement. Et si vous prenez la mode surtout pour les femmes, parce que regardez par exemple pour les hommes, on a eu la mode des baggy. Bon, bah les pantalons, voilà, vous n'étiez pas tellement alors que pour les femmes, on va être sur la jupe crayon, on va être sur les talons, on va être sur les ongles. Margot, mais ça doit être un enfer de vivre avec ses ongles de 2 centimètres de long, c'est absolument abominable. Bon, enfin, vous voyez, bon, voilà, on a le maquillage, il faut pas qu'il coule quand il pleut, il faut pas qu'il coule quand on a chaud, bon, etc. Donc, on est vraiment encore, je parlerai de wokisme, même si je vais me faire descendre par beaucoup de personnes qui ne savent pas ce qu'est le wokisme, mais bien sûr qu'on est encore dans la domination masculine, bien évidemment. Et les sociologues ont très peur qu'il y ait un retour de bâton et qu'on le soit de plus en plus. Et ça, c'est un vrai souci.
Alors, ce qui est intéressant et ce qu'il faut rappeler, c'est que ces conférences s'adressent justement à tout le monde, que les hommes sont bien sûr conviés à s'intéresser à ces thématiques plus que jamais. C'est toujours intéressant, en fait, de finalement regarder toujours ce qui se passe pour un sexe ou pour l'autre.
Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes, hein, on est sur moitié-moitié quasiment.
Ouais. Ouais, c'est une très bonne nouvelle. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour se rendre? Où est-ce que ça se passe? Combien est-ce que ça coûte? Comment ça se passe?
Alors, ça se passe dans cette très belle auditorium du 40, hein, on a la chance d'avoir cette salle. Et vous avez deux possibilités en termes de tarifs. Soit vous vous abonnez, mais je ne sais pas si les abonnements c'est toujours possible, mais bon. Vous vous abonnez pour 10 conférences, pas que les miennes, hein, toutes celles qui sont proposées, qui sont extrêmement intéressantes, auquel cas c'est 5€ la conférence. Ou alors vous venez comme si vous alliez au cinéma sans prévenir, sans s'inscrire ni rien, et là c'est 10€ la place.
Et l'ensemble de la programmation, donc effectivement, là on vient de faire le tour un petit peu de ce cycle de conférences que vous proposez, le corps dans tous ses états, mais il y a différentes thématiques à aborder, donc ici les sciences sociales, mais il y a aussi l'histoire des idées, la politique, la littérature, la philosophie, etc. Il ne faut pas hésiter à aller regarder donc cet ensemble, l'ensemble de cette programmation sur le site de laval.fr.
Tout à fait, et c'est le fait d'avoir une université populaire d'abord qui soit municipale, donc on a vraiment de la chance, les locaux qui nous accueillent sont magnifiques, et puis toutes ces thématiques, c'est une façon de rester citoyen et de continuer à s'enrichir tout au long de sa vie. C'est vraiment une très, très, très belle chose que cette université populaire, vraiment.
Merci beaucoup, Soazic, d'avoir été avec nous, de nous avoir présenté donc, l'ensemble. On a réussi à faire le tour, je suis très contente de l'ensemble de ces conférences que vous proposez. Mais alors, pour creuser davantage, éventuellement poser des questions, il faut se rendre sur
place. C'est ça, puisqu'il y a une partie conférence, une grande partie conférence. J'essaye de faire 1h30, mais en général, je déborde un petit peu. Et puis après, il y a des questions-réponses, bien évidemment.
Donc un sujet vraiment passionnant. Ouais. Merci beaucoup, Soazic. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Alors, pour rester dans ce fil fragile avant de continuer cette émission, on écoute maintenant Voyou, une chanson, si je puis dire, qui caresse l'évidence en toute simplicité. Écoutez, ça s'appelle « Les tétons ».
Petit, c'est vrai, je regardais intrigué les tétons des gens nus sur la plage. petits ronds dissimulés tout le reste de l'année sous quelques drapés de camouflage. Petit moi se racontait quelques histoires en été quand se découvraient ses coquillages. Téton à dos de chameau, exemple de scénario dont téton devenait personnage. Ces millions de boutons gorgés tressolés se crispaient soudain si se couvrait le ciel. Téton pointu, téton plein, téton crépi, téton brun, bouffi, poilu, petit rose au plat. Tout petit moi aurait bien cueilli tous ces petits points, mais m'a-t-on dit cela ne se fait pas. Pourquoi t'es-t-on tant caché? Pas tout compris, mais c'est vrai que moi non plus je ne les montre pas. Ces millions de boutons de toutes les couleurs, qu'est-ce que tu dis la pyjama? Pourquoi les tétons te font peur?
Je ne veux pas voir. En fait, c'est comme les nombrils, les doigts de pied, les narines. On pourrait les laisser dans le noir. Les bébés mangent les tétons, les médias fuient les tétons. Et moi, je dis des tétons qui sont trop bizarres. Ah, mais c'est trop bizarre. Ah non, j'aime pas. Cache-moi ça.
C'est maintenant le moment de la revue de presse de votre hebdomadaire Le Haut-Anjou, et c'est avec toi Maxime.
Oui Margot, alors à la une cette semaine, c'est le portrait d'un artiste et collectionneur à la renommée internationale. Il s'agit de Daniel Casto, habitant à Cran, âgé aujourd'hui de 66 ans. On apprend qu'il est rentré aux Beaux-Arts à l'âge de 16 ans, et malgré un début de carrière prolifique, à 20 ans, l'artiste s'arrête de peindre et décide de présenter le travail d'autres artistes qu'il admire. Et si son parcours nous intéresse, c'est parce qu'à 50 ans, il reprend le pinceau et redécouvre le plaisir de la création. Sa marque de fabrique, ce sont les plumes, un motif qui lui redonne de l'inspiration. Dans les colonnes de notre hebdomadaire, on retrace son histoire et on se projette avec lui dans l'avenir et dans le projet qu'il n'aura pas encore réalisé.
On continue cette revue de presse en parlant de la Coupe du Monde de football.
Effectivement, Margot, il aura lieu en 2034 en Arabie Saoudite et cette Coupe du Monde fait des mécontentements. Un passionné habitant à Sainte-Suzanne, Robin Cartier, s'est justement rendu à 1200 km en Suisse pour dénoncer les décisions prises par la FIFA. En effet, la FIFA a annoncé augmenter le nombre d'équipes de 32 à 48 pour cette compétition. Ce choix fait débat pour son aspect climatique, car nous tournons sur de futures constructions comme des stades et des logements, mais aussi plus de voyages en avion. C'est ce que nous raconte notre hebdomadaire qui relate l'engagement de personnes courageuses qui protestent pour un avenir meilleur. Pour terminer cette revue de presse, on vous annonce la première star de l'année.
Alors une star, comment ça Maxime?
Eh bien Margot, c'est le premier bébé qui a vu la lumière de la vie en Mayenne pour cette nouvelle année 2025. Ses parents sont Lorraine Brio et Valentin Alous et ont fait donc naître le petit Séméon né à 2h12 ce 1er janvier.
Merci Maxime, et on rappelle que pour plus d'informations, votre hebdomadaire Le Haut-Anjou est disponible en kiosque chaque vendredi ou alors en version numérique sur hautanjou.fr. L'agité du local sur l'autre radio. Il y a des images qui illustrent nos actualités, nos salles de spectacle, nos saisons culturelles. Oui, elles sont partout, autour de nous, et derrière ces visuels se trouvent des artistes que l'on connaît peu. J'ai justement eu envie d'en rencontrer avec vous dans cette émission pour découvrir des parcours et des identités uniques. C'est une série de 3 portraits d'illustratrices et d'illustrateurs qui commence aujourd'hui. Pour commencer, je vous présente Armand Demezy, illustrateur qui a réalisé la couverture du dernier Bouger en Mayenne de cette année 2024. Écoutez.
Moi, c'est Armand, je fais de l'illustration jeunesse principalement. J'ai commencé à dessiner très jeune et j'ai fait du coup des études dans le dessin à l'école Pivot à Nantes, que j'ai fini l'année dernière du coup. Et maintenant, je me lance en freelance sur l'illustration principalement jeunesse. Dans ma formation à l'école Pivot, on a testé beaucoup de choses. Ouais, c'était surtout apprendre à dessiner en priorité. Ensuite, des tests de technique. Pendant 4 ans, j'ai vraiment testé plein de choses pour au final me diriger surtout vers la gouache que j'aime beaucoup. Même si au tout début, j'aimais vraiment pas ça, mais je me suis mis à beaucoup l'aimer.
L'illustration, moi, qui m'a arrêtée, donc c'est le visuel en fait du Bouger en Mayenne de décembre 2024. C'est là où j'ai pu découvrir ton travail. Comment toi, tu peux me parler de ton univers en général, mais aussi justement de cette technique que tu utilises?
J'adore les animaux, je dessine vraiment beaucoup d'animaux en couleur. Du coup, là, oui, c'était à la gouache et au crayon de couleur. C'est une technique que j'aime beaucoup. Après, j'aime beaucoup expérimenter, donc mes dessins, ils varient l'un de l'autre à chaque fois, niveau technique. C'est vrai que beaucoup de personnes préfèrent le digital. Moi aussi, j'adore. Mais c'est vrai que pour certaines illustrations, je préfère quand même rester au traditionnel. J'aime bien la texture que ça apporte, surtout. Et puis la sensation aussi du juste crayon sur la feuille, que j'adore, contrairement au digital, où c'est un peu plus... c'est beaucoup moins dans la matière. Enfin, il y a de la texture, mais pas, tu l'as pas sous la main directement. J'ai terminé mes études il y a un an, je suis pas quelqu'un de très connu, donc c'est moi qui démarche plus qu'autre chose. Si je peux répondre à des commandes, ça me dérange pas du tout. Au contraire, j'aime bien découvrir des univers aussi d'autres personnes et les illustrer. J'ai pas eu l'occasion de faire ça, mais ça me plairait beaucoup. Et sinon, créer mes propres univers, c'est aussi très sympathique.
Tu as un projet personnel qui arrive, donc là, c'est ton premier album jeunesse, le 23 janvier 2025, voilà, qui s'appellera Mon Dragon. Alors, comment est-ce que tu as pensé ce projet-là?
Alors, pour ce projet, du coup, c'était un appel à projet de la part d'une maison d'édition, La Poule qui pond, et à laquelle du coup j'ai postulé en envoyant un chemin de fer, donc c'est un croquis de tout mon livre. Là, je pensais à un dragon à un moment et je me suis dit un petit livre sur un dragon, ça pourrait être très mignon. Au final, je suis parti sur ça, un truc avec un petit dragon et un enfant qui l'a en tant qu'animal de compagnie. L'appel à projet, c'était vraiment projet de tout carton, du coup c'est des livres carrés pour les bébés à 0 à 3 ans. Le sujet était libre, donc vraiment c'était assez libre. Donc j'ai envoyé mon projet. Ensuite j'ai eu un retour avec quelques modifications à faire sur mon croquis de base, sur mon histoire.
Ça raconte une histoire, mais je trouve que la technique aussi en elle-même raconte déjà quelque chose de l'émotion qu'on doit ressentir quand on est face à une illustration. J'ai le sentiment que déjà tu racontes quelque chose, il y a un regard que tu poses sur ce que tu dessines et l'histoire que tu racontes à travers la technique que tu choisis.
Ce livre-là, il est au digital. Donc, c'est vrai que là, du coup, je l'ai ressenti en le faisant. J'ai quand même un peu moins de matière, mais c'était plaisant à faire quand même. Hein. Mais c'est vrai que je me suis dit, le prochain, je le ferai au traditionnel. Et du coup, je travaille sur un autre livre, là, actuellement, de la même maison d'édition. Et cette fois-ci, je le fais au traditionnel, au pastel, carrément. Donc c'est vrai que je suis en mode, je me cherche encore, j'ai envie de dire, en tant qu'artiste, vu que je suis encore jeune. Mais ouais, j'aime bien tester, vraiment, c'est vraiment sympa.
Enfin, Par exemple, si on prend cette illustration-là, celle du bouget en Mayenne, quelles sont les étapes de dessin? Est-ce que tu fais d'abord peut-être un croquis, ensuite tu amènes les détails, tu penses aussi à ta palette de couleurs? Comment est-ce que toi tu procèdes au niveau de ton travail?
Alors d'abord, pour ça, je fais des croquis rapides des idées que j'ai. Ensuite, du coup, une fois que c'est validé avec le client, je me lance directement dans la conception. Je fais un croquis très fini pour avoir une base dans la peinture après. Je fais des pochades, du coup, c'est des petits croquis rapides au digital des couleurs pour savoir à l'avance quelle couleur je vais mettre, savoir ce qui marche entre elles ou pas. Et ensuite, du coup, je peins directement l'illustration. Donc, il y a déjà des aplats à la gouache. Et ensuite, je viens au crayon de couleur rajouter de la texture, des détails. Et ensuite, à la fin, je viens au digital retoucher les couleurs et apporter quelques petites modifications aussi par-ci par-là s'il y a besoin.
Tu es Lavallois. Est-ce que le fait de vivre en Mayenne, c'est plutôt un avantage, une difficulté, ou alors en fait on peut être illustrateur peu importe où est-ce qu'on vit?
On peut être illustrateur n'importe où, vraiment, on travaille de chez nous de toute façon, donc il n'y a pas de problème. J'aimerais beaucoup pouvoir faire différentes choses dans le milieu de l'illustration, donc des albums jeunesse peut-être un peu pour les plus grands aussi, parce que là je suis surtout pour les bébés, mais c'est vrai que j'aimerais aussi faire un peu plus grand. J'aimerais bien aussi faire de la BD, c'est sympa, de la BD jeunesse aussi, je trouve, j'aime beaucoup en lire aussi, c'est vraiment cool à lire.
Le tout premier album jeunesse d'Armand Demeuzy, Mon Dragon, sortira le 23 janvier aux éditions La Poule qui pond et sera disponible partout à la commande. Bon, alors l'émission s'arrête ici, enfin presque. On étire encore un peu le temps ensemble avec un titre que tu as choisi, Maxime.
Pour ma première, je vous fais écouter mon titre coup de cœur. Il s'agit de la musique Summer de Joe Shashi, une composition qui vous fait voyager dans un univers féerique. Thank you.
L'agité du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Soizic d'avoir été avec nous. Merci à toi, Maxime, d'avoir été à mes côtés aujourd'hui. On se retrouve demain tous les deux. Mais avant ça, qu'est-ce qui nous attend sur les ondes de l'autre radio?
La soirée commence à 19h avec Solénoïde. Pour ce tout premier jour de la semaine, on va plonger dans un univers sonore hors des chantiers battus. Une émission qui nous fait voyager dans des paysages musicaux sous hypnose, entre rythmes qui nous rappellent le cinéma et des sonorités ethniques.
Bon, c'est certain, cette soirée commence très bien. Et ensuite, à 20h, Maxime?
On ouvrira les portes d'une nouvelle collection musicale ce soir avec la discothèque. Chaque semaine, un invité nous partage ses trésors sonores, ses morceaux fétiches qui réveillent des souvenirs ou nous ramènent dans des époques révolues. En tout cas, on partage.
Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. On parlera poésie avec Annie André pour la publication de son nouveau recueil « L'envol ardent ». D'ici là, offrez-vous quelques pensées légères et tentons pour cette nouvelle année de garder au fond au moins une lueur de sérénité. Enfin, faites comme vous le voulez, mais s'il vous plaît, faites-le bien.
Oh, c'est déjà la fin, bah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
Mimi, il y a d'autres émissions qui sont bien aussi sur l'autre radio.